Mais c'est bien comme ça. Voilà. De toute façon, je lirai tous les textes et ici, les images, c'est pour donner un peu de chair sur les personnages exposés. Donc, Fondation Blaise Pascal, qui est une fondation qui s'occupe d'organiser la culture mathématique à échelon national, en canalisant des subventions, en soutenant des projets et ainsi de suite, en mathématiques et en informatique, pour les collégiens, les lycéens et le grand public, avec un accent particulier sur la question des jeunes filles en mathématiques, qui, comme on le sait, est un sujet dans lequel les clichés de genre sévissent de façon extrêmement sévère. Et pourquoi parler de Blaise Pascal à Cluny ? Pascal ne peut pas être rangé dans la catégorie des philosophes de l'écologie. Si Pascal était encore de ce monde, il ne voterait certainement pas écologiste. C'était un conservateur. Pascal est connu, entre autres, comme étant un auteur très chrétien. Et pourtant, il y a plusieurs motivations à ça. Premièrement, c'était l'an dernier, en 2023, le quadricentenaire de Blaise Pascal et donc des célébrations nationales un peu partout. En particulier à Clermont-Ferrand, j'ai été pas moins de 4 fois à Clermont-Ferrand l'an dernier pour des colloques liés à Blaise Pascal, dans lesquels je m'occupais de présenter en particulier l'aspect mathématique et la façon dont l'œuvre mathématique de Blaise Pascal est intimement liée à son œuvre philosophique généraliste. Et puis, ça a été l'occasion de parler de Pascal un peu partout. Donc, c'est l'occasion de reprendre Blaise Pascal à cette aune-là. Et pour préparer ce quadricentenaire, j'ai relu toutes les œuvres scientifiques, un paquet de commentaires de Pascal. Je suis allé investiguer auprès de quelques spécialistes qui ont fait leur carrière sur Pascal pour être au point et savoir quoi en tirer. Et puis, à la même époque, ou un peu avant, j'étais en train de lire un livre de notre ami Alain Lipietz. Et dedans, il y a une note de bas de page quelque part qui indique qu'il parle de Blaise Pascal comme un auteur avec des contributions fondamentales et importantes pour les sujets écolos. Alors j'étais intrigué, j'ai demandé à Alain qu'est-ce que tu entends par là, etc., etc. Il m'a donné quelques billes, quelques clés et j'ai approfondi. Alors avec d'une part les pistes données par Alain et d'autre part ce que je pouvais voir de... D'une part, le travail sur Blaise Pascal et d'autre part, le travail sur des prises de position sur l'écologie politique. Je me suis posé la question systématiquement, qu'est-ce qu'on peut retrouver qui se prête bien à la pensée écologiste dans Pascal ? Et puis, il y a une question générale de fond, on va dire. Si on s'installe dans une optique philosophique où la question est quelle représentation du monde et quelle est notre relation par rapport au savoir et à la marche du monde, le XVIIe siècle est un siècle prescripteur dans lequel vous avez une réflexion considérable, on y reviendra, et dans laquelle vous avez les philosophes qui s'imposent avec une nouvelle vision et qui deviennent emblématiques. Bien sûr, Descartes le plus célèbre, avec sa vision du doute qui permet d'aller vers la connaissance, sa façon de faire table rase de tout ce qui a été fait dans le passé en matière de physique, de sciences naturelles et tout ça. Et puis, deux autres qui jouent un rôle majeur, Spinoza qui en un sens va encore plus loin que Descartes, considérant Dieu comme étant un principe qui fait que les choses avancent plutôt qu'un être avec une conscience, et puis en prenant la démocratie plutôt que la monarchie, en fondant son éthique sur une base extrêmement rationnelle, et ainsi de suite. Et puis Pascal, qui semble être une régression par rapport à Descartes, en insistant en particulier sur le rôle des émotions, là où Descartes insiste sur la raison. On va y revenir, mais quelque part, quel que soit le sujet que vous évoquez, si vous êtes dans une tradition et si votre problème, c'est quelle représentation du monde, c'est intéressant de se demander auquel des trois on se rattache le plus et peut-être à un peu des trois et dans quelle manière. Blaise Pascal, alors on va commencer par faire des rappels et un point de vue généraliste. Je vais faire semblant d'être un prof de philo pendant un petit moment. Et faire un petit panorama de Blaise Pascal. Et puis j'insisterai plus précisément sur le Blaise Pascal lu avec des yeux écologistes. Blaise Pascal, 1623-1662, mort avant ses 40 ans. Savant, mondain, chrétien, les trois aspects sont importants. Il y a eu une époque classique où on enseignait comme ça aux jeunes. Il a eu sa période où il était savant, sa période où il était mondain, puis sa période où il était complètement chrétien et complètement impliqué dans la religion. La classification est fausse, mais comme souvent les classifications, en première approximation, c'est pas mal avant ensuite de chambouler. Et savoir qu'en particulier, il a été passionné par les sciences et en particulier mathématiques pendant toute sa vie, y compris la période qui est décrite comme la plus chrétienne, y compris la période mondaine, etc. On pourrait dire qu'il est aussi mathématicien, physicien, inventeur, écrivain, homme du monde, entrepreneur, polémiste, moraliste, théologien, philosophe et excellent dans tous ses domaines. Pourtant amateur, jamais eu besoin de travailler, d'avoir un emploi pour vivre. Et il arrive là-dedans avec l'amour de la chose bien faite, de l'art, de la curiosité, avec des facettes multiples et pourtant une unité de parcours. Et c'est une grave erreur que de penser qu'il y a Pascal qui, à un moment, s'intéresse à certains sujets, puis tourne le dos à ces sujets et se tourne vers d'autres, et puis encore vers d'autres. Il y a par exemple un texte célèbre de Chateaubriand du début du XIXe siècle qui dit « Pascal, à un moment, se consacre aux sciences naturelles, puis comprend leur vanité, et se tourne vers la religion, etc. » C'est une vision qui est totalement fausse et ça se voit. Si vous êtes mathématicien, par exemple, vous demandez comment est-ce que Pascal tire son inspiration pour développer telle ou telle théorie. Il l'apprend parfois dans l'observation de la nature, parfois dans l'observation des choses humaines, y compris le jeu, y compris les distractions mondaines. Et il y a une façon de faire communiquer les choses les uns avec les autres qui est absolument spectaculaire. Il est élégant, très élégant. Il est paradoxal et il se nourrit de paradoxes. Il aime ça, il adore ça. Il n'a pas peur des paradoxes. Il est à la fois puissant et fragile, aussi bien du point de vue de sa construction d'idées qui est toujours en équilibrisme et en même temps du point de vue de sa santé physique, et puissant parce qu'il est très très impressionnant par tout ce qu'il embrasse, l'énergie, la passion qu'il met dans ses différents sujets. Il est très français, et d'ailleurs quand je fais ce texte devant une audience mathématique, cet exposé, je cite un passage de Ludwig Boltzmann qui insiste sur l'élégance et la fragilité comme des signes distinctifs de l'école mathématique française. Le contexte de Pascal, c'est la vie des idées début XVIIe siècle. C'est un moment de bouillonnement extraordinaire, avec des luttes entre la science et la religion, y compris des luttes de pouvoir et d'influence, pas seulement la représentation du monde et les dogmes, mais aussi le pouvoir politique, des luttes entre humanisme, superstition, et on est dans tout le bazar imaginable. Les guerres de religion étaient là, les grandes tensions sont encore là, la Saint-Barthélemy, c'était il n'y a pas si longtemps. Giordano Bruno a été brûlé, Galilée se retrouve en procès et c'est un procès spectaculaire. La tension est considérable. Par exemple, après le procès Galilée, Descartes décide de remiser certains des textes sur lesquels il travaillait en se disant « je vais avoir des ennuis si je publie ça ». Ou par exemple, on a retrouvé à un moment des notes montrant que au Vatican, où il y avait évidemment l'équivalent de renseignements généraux et où on s'interrogeait sur tous les intellectuels de l'époque, Pascal était considéré, même si Pascal prenait bien soin de ne pas prendre parti sur des questions comme le système solaire, en tout cas pas dans ses écrits, et même expliquer qu'il ne fallait pas, il était fiché et considéré comme un copernicien, hein, ceux qui croient que la Terre tourne autour du Soleil, mais encore plus hérétique, il était considéré comme un képlérien. Ceux qui mettent le mouvement des planètes en équation autour du Soleil. Et donc, il y avait cette grande défiance des différents ordres de pensée humaine qui était extrêmement forte. Et Pascal se retrouvera aussi au cœur d'une grande dispute philosophique qui a cours à cette époque-là, avec les qu'on va appeler les sceptiques contre les dogmatiques. Les philosophes tentant de répondre à la question « qu'est-ce qu'on doit faire de nos vies ? C'est quoi notre devoir ?» Et les sceptiques comme Montaigne constatant qu'il y a tellement de variations et d'arbitraires dans les lois et les coutumes humaines que décidément on ne peut pas dire qu'il y a une règle. Et au contraire, d'autres qui vont dire non, nous avons notre devoir, il y a des règles universelles, etc. etc. Ils donneront plus tard des Kant et autres. Et Pascal va aussi se retrouver au milieu des tensions dans les courants religieux, protestants contre catholiques, bien sûr, mais même au sein des catholiques, il y a des grandes tensions entre les différents ordres, et en particulier une lutte à la fois dogmatique et politique entre les jansénistes et les jésuites. Pascal est dans un milieu extrêmement instruit. Son père est un haut fonctionnaire, il est mathématicien, il est musicien, tout ce que vous voulez. Il fait partie de ce qui préfigure l'Académie des sciences. Pourtant, quand le Pascal est tout jeune, on se convainc qu'un sort a été jeté sur lui par la nourrice, qui devait être une sorcière cachée. Quelqu'un est convoqué pour faire un exorcisme, on transfère le maléfice sur un pauvre chat, etc. Comme on faisait encore à l'époque, même dans des milieux qui étaient extrêmement instruits. Donc il est au milieu de toutes ces contradictions, Pascal. Et c'est une époque qui est passionnante aussi parce que tente de se dégager la science moderne, les valeurs, la façon dont on regarde le monde. Si on regarde la vie des sciences, Pour caricaturer, on peut couper le XVIIe siècle en deux, avant et après les années 1660. Les années 1660, c'est là que se forment les premières académies des sciences, Académie des sciences française 1666, les premières revues scientifiques, la revue par les pairs telle qu'on l'évoque aujourd'hui, etc., etc. Et qu'il y a une sorte de professionnalisation avec aussi l'État qui subventionne des institutions, qui comprend qu'il a besoin de canaliser aussi cette influence scientifique plutôt que de le subir. Et avant, tout ce qui en tient lieu, ce sont des échanges épistolaires entre les uns et les autres. C'est une époque où, pour percer au sens scientifique du terme, il faut être particulièrement doué, brillant. On appelle ça parfois le siècle des génies en histoire des sciences. Et sont effectivement des noms qui sont encore aujourd'hui, qui n'ont rien perdu de leur prestige et de l'admiration qu'on peut avoir pour eux. Les Descartes, Fermat, Newton, etc., etc. De grands défis qui se lancent les uns les autres. Parfois, ils coopèrent dans la joie. Parfois, ce sont des affrontements terribles, des haines tenaces, des disputes de paternité qui peuvent aller jusqu'au procès, etc., etc. Et tout ce qui tenait lieu avant, donc en bas du dessin ici, j'ai représenté ce qui tenait lieu d'académie. Le père Marin Mersenne, à un moment, tient lieu de secrétaire des esprits scientifiques à travers l'Europe, envoie des lettres aux uns, compare avec les autres, de temps en temps attise un peu la discorde entre tel et tel pour voir ce que ça fait, si ça les motive, etc., etc. Il a été suivi par Le Pailleur, puis par Milon, mais il n'y a aucune institution avant 1660 qui s'occupe d'organiser officiellement la science. Donc c'est un moment de bouillonnement aussi, où naissent énormément de choses. L'analyse telle qu'on l'apprend aujourd'hui au lycée avec le début du calcul infinitésimal, ça arrive à la fin du 7e siècle. Le calcul des probabilités, y compris dans ses aspects combinatoires, ça arrive au milieu du 17e siècle. Les premiers raisonnements par récurrence, ils arrivent à cette époque-là. Des choses qu'aujourd'hui on demande à nos enfants de comprendre dès le lycée, voire le collège, à l'époque ça posait problème aux esprits les plus en pointe. Et donc c'est une époque bouillonnante et passionnante. Pascal se retrouve exactement à la charnière entre les deux, puisqu'il meurt en 1662. Et comme je vous disais, son père était déjà un correspondant régulier de Mersenne. Pascal a grandi dans ce bain. Le clan Pascal, Clermont-Ferrand, Rouen, Paris, Port-Royal, c'est les quatre pôles importants pour Pascal, qui n'était pas un grand voyageur. Le clan, c'est le père Étienne, dont il ne subsiste aucun portrait, Blaise, notre héros, et ses deux sœurs, Jacqueline, entrée dans les ordres, et Marguerite, qui était avec qui c'était un clan extrêmement soudé, avec des échanges constants entre les uns et les autres, y compris des questions de religion, des questions philosophiques, et ainsi de suite. Port-Royal des Champs, c'était un pôle religieux, philosophique, intellectuel important à l'époque. C'était dans l'actuel Magny-le-Hameau. C'était la maison mère de la succursale Port-Royal, maintenant c'est le Port-Royal parisien. Et c'était le fief des jansénistes, une doctrine de catholicisme qui, par certaines particularités, était plus rigoriste que ce que prônaient d'autres, en particulier les jésuites. Blaise Pascal, en quelques dates, en 1623, je vous le disais, en 1626, il perd sa mère, élevé en famille. Le gros de sa carrière scientifique, c'est la décennie 1640-1651, en particulier en géométrie, en physique, en mécanique. Après la mort de son père, en 1651, il a une période mondaine dans laquelle il fréquente le beau monde, se demande s'il va se marier. 1654, il a un épisode personnel qui le marque de façon tellement durable que tout le reste de sa vie, il a conservé un petit manuscrit avec le récit de ce qu'il a ressenti pendant cette nuit de feu, où il a ressenti une vraie illumination mystique avec la conscience de Jésus-Christ et une joie intense qui a duré une heure ou quelque chose comme ça. Vie et mort en religion, 1654-1662. Là encore, j'ai mis les catégories pour se repérer. C'est à nuancer de façon considérable, même dans la partie que j'ai appelée ici « Vie et mort en religion », telle qu'on la met dans la biographie classique. Il s'occupait de problèmes de mathématiques, il s'occupait même de questions entrepreneuriales. Et on va y revenir tout de suite, même tant qu'on y est. Deux grands projets entrepreneuriaux de Blaise Pascal. L'un, la première calculatrice commerciale, la Pascaline. On y reviendra. Qui fait de lui, quand on regarde, et c'est peut-être ce qui m'a le plus soufflé de tout ce que j'ai relu, lu et préparé pour ce quadricentenaire, le premier entrepreneur de la tech, littéralement. Et le deuxième grand projet entrepreneurial sont les transports en commun. la première ligne de bus et même la toute première ligne de transport en commun à tester avec vraiment un modèle économique qui allait avec, etc. Fondé avec trois coéquipiers vers la fin de sa vie et qui a tenu une vingtaine d'années, qui a été très populaire avec plusieurs lignes parisiennes, etc. Première publication des pensées 8 ans après sa mort. C'est sa sœur qui a récupéré les brouillons, qui s'occupait de les tâcher, de les ordonner et ainsi de suite. Au plan philosophique, il pose un problème par rapport au grand développement d'idées philosophiques au XVIIIe, XIXe siècle. On ne sait pas trop où le caser. Les philosophes des Lumières avaient plein de problèmes avec lui parce qu'il semblait être un recul. Voltaire le considérait comme fou. Ils étaient obligés de constater qu'il était brillantissime, mais il leur posait problème dans sa façon de traiter Dieu, traiter les émotions, etc., etc. Au XXe siècle, en revanche, il fait un retour en gloire spectaculaire, et en particulier, quand vous regardez les ouvrages, après la Première Guerre mondiale, après la gigantesque boucherie, où on se dit le progrès des sciences, le progrès de la raison n'est pas suffisant à garantir le progrès de l'humanité, et peut-être qu'il est temps de se repencher davantage sur les questions d'émotion, de cœur qui étaient si chères à Pascal. Les grands thèmes pascaliens, tels qu'ils sont développés, commentés, par exemple, dans l'excellente introduction d'Antoine Compagnon, qui vient avec un podcast, la polémique, la dialectique, bien prendre une thèse, une antithèse, et soit les percuter l'une contre l'autre, les annihilant et trouvant qu'il y a une autre solution qui est meilleure, soit, pire encore, allier les contraires en disant que finalement les deux ont raison et expliquant pourquoi les apparentes contradictions, finalement, vont bien ensemble. Les paradoxes, qu'il adore. Un grand thème de l'imperfection de la connaissance. Notre connaissance est limitée par nos biais, par nos émotions, par notre échelle, par nos sociétés, par nos instruments de mesure et tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça. Le thème du divertissement dont on nous a rabattu les oreilles pendant le confinement, le divertissement pascalien, n'est-ce pas ? Le thème du monde fragmenté et non pas unifié avec des grands principes universels. La grande importance du lien entre les choses. Sa passion pour les changements de point de vue dans ses argumentaires philosophiques. Souvent, il prend le point de partie de l'un, puis le parti de l'autre, et ainsi de suite. Le maniement des incompréhensibles. Pascal n'a pas peur de jouer avec le concept de divinité, de jouer avec l'infini, l'infiniment grand, l'infiniment petit, etc. Une passion pour le thème de l'esprit et le corps et la façon dont les deux sont interconnectés. Et aussi la raison et le cœur et son grand leitmotiv. On ne peut pas comprendre seulement avec l'esprit, ça doit se faire aussi avec les émotions. Une très grande élégance rhétorique, c'est quelqu'un qui aime écrire, qui a la passion de la polémique aussi, qui écrit souvent sous pseudonyme quand il attaque les uns les autres, et qui adore aussi les jeux sur les mots. Je ne le développerai pas ici, mais quelque chose de majeur, c'est que beaucoup de ces thèmes qui sont commentés en long et en large dans les études philosophiques de Pascal sont aussi des thèmes qui ont fait son succès en tant que mathématicien et son originalité. Une historienne des sciences du nom de Catherine Chevalet avait fait une étude limpide là-dessus en montrant comment en particulier son goût pour les liens, son goût pour le changement de point de vue, son maniement des incompréhensibles lui avait permis d'avoir un point de vue original, les différents de son époque sur la théorie des probabilités. La confrontation Descartes-Pascal est un classique. Eux-mêmes se sont... Alors Descartes était l'aîné de Pascal. Pascal et Descartes se sont rencontrés physiquement une fois. On ne sait pas vraiment ce qu'ils se sont dit, mais ça ne s'est pas bien passé. Et beaucoup de choses les opposaient. Pas le même milieu social, pas la même éducation, pas la même vision de la religion, pas les mêmes caractères. Hein, Pascal qui est quand même de base plutôt casanière, qui aime la stabilité. Un Descartes qui court partout, qui part à l'étranger, qui fait des enfants à droite à gauche, qui aime bien se battre, qui va dans l'armée, etc. etc. Et au niveau philosophique, des oppositions que Pascal aimait bien, surjoué en disant vraiment tout m'oppose à Descartes, là où Descartes au contraire considérait qu'ils avaient plus d'affinité que de divergence. Parmi les grandes oppositions, Descartes pense à une pensée universelle et une façon d'aborder les thèmes avec des règles universelles et une méthodologie universelle, là où Pascal insiste sur la souplesse, la fluidité, le fait que la pensée est fragmentée, il faut penser aux gens, à différents types de gens ou à différents types de choses avec des pensées différentes. Une vision du rapport entre Dieu et la connaissance qui est fort différente pour Descartes. Dieu fonde la science et nous garantit la connaissance, nous donne aussi des concepts que nous aurions été incapables d'imaginer sinon, l'infini et qui sait quoi. Pascal, lui, pense à un Dieu souverain, plus puissant, une connaissance contingente, considère comme complètement ridicule la tentative de démonstration rationnelle de l'existence de Dieu par Descartes. Et du côté cartésien, la possibilité d'analyser le monde par le doute systématique et la raison qui tranche, son célèbre discours de la méthode. Au contraire, pour Pascal, on est obligé d'embrasser un tout pour comprendre. La raison est trompée par bien des causes et comme je vous le disais, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est une confrontation qui est aussi utile pour voir les oppositions, les nuances qu'on peut avoir sur telle ou telle position. La paternité, l'influence de Pascal aujourd'hui est attestée par un certain nombre de références, les unes techniques, les autres professionnelles, certaines culturelles ou institutionnelles. Pascal, ce sont d'abord ses deux ouvrages les plus célèbres, Les Pensées et Les Provinciales. Les Provinciales, ouvrage satirique pour détruire les jésuites, écrit sous pseudonyme, et qui est resté un modèle de rhétorique à tel point qu'à une époque, il était, dans certains milieux communistes, utilisé pour développer la rhétorique et le sens de la joute verbale, ce qui est très ironique pour un auteur très chrétien et politiquement conservateur. Pascal est un nom qui est donné à un paquet d'institutions, des écoles, des collèges, des lycées, des laboratoires, en particulier en mathématiques. Le prix Blaise Pascal de l'Académie des sciences est attribué tous les ans à la contribution la plus prometteuse en calcul scientifique, donc à l'interface entre mathématiques et informatique. Il y a une chaire Blaise Pascal qui est attribuée pour les contributions les plus marquantes sur le maniement de l'infini, et ainsi de suite. Et il y a deux films emblématiques, l'un qui est une sorte de biopic sur Blaise Pascal par Rossellini, qui cherche à être très proche de la vérité, et l'autre d'Éric Rohmer, excellent film, Ma nuit chez Maud, qui se déroule essentiellement à Clermont-Ferrand, qui met des thèmes pascaliens en scène dans une situation entre différents personnages, avec le pari qui vient de façon récurrente, et une très pertinente transposition du thème du pari pascalien sur l'existence de Dieu et la vie en religion au domaine politique, sur laquelle je reviendrai. Pascal, c'est le langage de programmation que j'ai pratiqué quand j'étais lycéen, comme certains dans la salle à coup sûr. À l'époque, on programmait en Turbo Pascal et bien sûr, le nom Pascal avait été donné par le développeur de ce langage en hommage à son rôle majeur dans le développement de l'informatique. Pascal, c'est aussi le nom d'une entreprise, c'est plus une start-up maintenant, elle en est au stade où elle lève des centaines de millions de dollars, qui fait de l'informatique quantique, avec un Q comme quantique. Pascaline, il y a quelque temps, c'est le nom d'un club d'entrepreneurs de la tech. Pascal, c'est le nom d'un théorème. Prenez une conique, votre conique préférée, un cercle par exemple. Dedans, vous prenez 6 points, ça vous fait un hexagone, ça vous fait 6 côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans l'ordre que vous voulez. Et puis, vous joignez deux à deux les côtés opposés, le côté 1 avec le côté 4, le côté 2 avec le côté 5, le côté 3 avec le côté 6. Ça vous fait en général 3 points d'intersection. Eh bien, ces 3 points sont alignés. Ça, c'est un théorème qui est dû à Pascal. Pascal avait 16-17 ans quand il a découvert ça. Il a obtenu ça en travaillant comme un fou à comprendre les travaux de son aîné Girard Desargues, précurseur de la géométrie projective. Son père lui avait fortement déconseillé de travailler là-dessus. Tu n'y comprendras rien, Desargues, on sait, il est obscur et tout. Mais le jeune Pascal n'avait peur de rien et a passé ses jours et ses nuits jusqu'à obtenir non seulement ce théorème, mais aussi une contribution mathématique marquante en montrant comment, à partir de ce théorème, on pouvait retrouver tout, absolument toute la théorie des coniques telle qu'elle avait été développée depuis la Grèce antique. C'était un mémoire magistral et pour un gamin de 17 ans, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur Pascal ? Le triangle de Pascal est là-haut. Ça vous rappelle des souvenirs de lycée pour certains d'entre vous. Le 1, 1, 1, 2, 1, où chaque nombre est la somme des deux nombres qui sont au-dessus et qui est utilisé soit dans le développement des coefficients de ce qu'on appelle le binôme de Newton, soit dans les calculs de probabilité. Pascal n'est pas le premier à avoir introduit le triangle, mais il est le premier à avoir fait l'étude systématique, à l'avoir lié au calcul des probabilités, à l'avoir trafiqué, regardé dans toutes les directions possibles. Pascal, c'est le fameux pari sur lequel on reviendra. Pascal, c'est un principe en hydrodynamique et la démonstration avec son contemporain Torricelli de la pesanteur de l'air, de 1, l'existence du vide, et 2, la pesanteur de l'air, les deux allant de pair, et une fameuse expérience qui a valu à Pascal, enfin une série d'expériences même, dont certaines réalisées avec du mercure, d'autres réalisées avec de l'eau, d'autres réalisées avec du vin, bien rouge pour que ce soit spectaculaire. Et ça lui a valu d'être aujourd'hui l'unité de mesure de la pression, le Pascal. Pascal, c'était un billet de banque, le plus gros billet de banque de l'époque où on travaillait en francs. Comme on se souvient, brûlé publiquement par Gainsbourg un jour à la télévision. Et puis Pascal, de temps en temps, quelqu'un parle de le canoniser, y compris le pape qui a laissé entendre qu'il ne serait pas contre, montrant par là qu'il ne tenait pas rancune de ce que lui, un pape jésuite, enfin de ce que son ordre avait été ridiculisé par Pascal dans le temps. Et puis la machine. Thème pascalien par excellence. Il y en a un qui l'a passionné, c'est le thème de la machine et du rapport entre la machine et l'humain. Alors, à droite, la machine à calculer, la pascaline, dont il a fait plusieurs dizaines de prototypes, il a travaillé ça sur 10 ans, il a commencé à s'y mettre aussi quand il avait 17 ans. Au début, c'était pour aider son père, qui avait une fonction de haute administration dans le contrôle des impôts, le contrôle des requêtes en grâce d'impôts, etc., etc. Et donc, pour le soulager des lourds calculs, il s'agissait de faire une machine qui fasse des additions ou des soustractions automatiquement. Et puis, c'est devenu un projet en tant que tel. Pascal a travaillé de façon considérable sur le design, sur l'ergonomie. Il a fait, par exemple, voyager sa pascaline en carrosse pendant 1000 km pour vérifier qu'elle ne se dégradait pas trop. Il a intrigué de façon extrêmement servile auprès des gouvernements de l'époque pour obtenir un privilège royal, l'équivalent d'un brevet, parce qu'il voulait avoir accès à un marché protégé. Il avait bien identifié que sans le monopole, il aurait beaucoup de mal à faire tenir son entreprise économiquement. Des textes sont passionnants à lire aussi là-dessus. Par exemple, il a des mots extrêmement durs qu'on n'attendrait pas de la part d'un sage philosophe pour la concurrence. Les machines de la concurrence, il les appelle des avortons illégitimes. Heureusement, le privilège royal lui permet d'étrangler dans le berceau ces avortons. Et il explique pourquoi il n'y a que lui, Pascal, qui est capable d'organiser la légitime alliance de la géométrie, de la mécanique et tout ça. Il explique comment il résout la grande querelle de ceux qui veulent poser les opérations à la main, comme on a l'habitude de le faire nous maintenant, et ceux qui veulent les faire au boulier ou au jeton, et que sa machine écrase l'une et l'autre méthode en termes d'efficacité. Comment ça vous dispense de penser, de mémoriser, ça fait le travail à votre place. C'est tout juste si ça ne pense pas à votre place, ce truc. Et puis c'est tellement simple que je n'ai même pas besoin de vous expliquer, ami lecteur, je n'ai même pas besoin de t'expliquer comment ça marche. Il suffira d'une petite présentation, quelques paroles, tu comprendras. Bon. Et alors, ce qui est absolument fascinant, quand vous lisez les écrits de Pascal maintenant, vous voyez un croisement entre des thèmes typiquement pascaliens, la dialectique, la polémique, la critique des demi-habiles, etc., etc., et des thèmes typiquement associés aux grands entrepreneurs de la tech du XXe siècle. L'obsession pour le design, pour la propriété intellectuelle, la relation complice avec l'acheteur, lui faire comprendre que la machine va changer la vie, ne fais rien, la technologie va te sauver, etc., etc. Qui en fait, sans aucun doute, le premier entrepreneur de la tech, comme je disais. En tout cas, la machine, une machine à laquelle il a consacré beaucoup de temps. Et à gauche, l'un des textes les plus célèbres dans la philosophie, le texte du Paris de Pascal. Alors, regardez le bazar que c'est, la difficulté que ça a été de retrouver dans les brouillons, d'arriver à déchiffrer, l'exaltation avec laquelle il a dû écrire ça. Pour mémoire, un des grands spécialistes contemporains, Laurent Thirouin, a compris récemment, en regardant le texte et en revenant sur l'une des interprétations, qu'une transcription d'un mot avait été mal faite par un certain nombre d'auteurs et que leur méconnaissance de la partie mathématique de l'œuvre de Pascal les avait empêchés d'apprécier un des fragments du Paris. Même ce texte qui a été lu, relu des milliers de fois, il y a des choses qui ont été découvertes encore récemment. Et il y a quelques années, un autre spécialiste a découvert que au verso d'une des pages, il y avait un brouillon mathématique jamais identifié qui montrait en particulier que Pascal est le plus ancien attesté à utiliser le symbole du S allongé pour les intégrales. Donc il y a quelque chose d'incroyable dans ces brouillons. Et alors, si je l'ai mis là, c'est parce que le titre originel de ce texte du Paris, ce n'était pas le texte du Paris, c'était le discours de la machine. Alors, pourquoi le discours de la machine ? Quand Pascal parle de la machine, ça peut être la machine animée, celle qu'il va construire, mais ça peut être nous dans ce que nous avons de machinal, de réflexe. Nos grilles de lecture inconscientes, les habitudes qui nous tiennent, tout ce qui fait qu'il y a des choses qu'on pense, qu'on perçoit, dont on n'est pas maître. Et l'un de ces grands thèmes, c'est que ce travail sur la machine va aussi influer sur notre esprit. Ce n'est pas seulement l'esprit qui peut gérer la machine, c'est aussi la machine qui va influer sur l'esprit. Et le raisonnement général du pari de Pascal, ce n'est pas de dire, regardez, supposons que Dieu existe, alors vous gagnez le paradis à mener une vie pieuse, et quel que soit ce que vous perdez ici-bas, le gain du paradis est infini, donc vous avez intérêt à parier que Dieu existe. Le raisonnement est plutôt le suivant. Il s'adresse à quelqu'un qui ne croit pas, et il se lance dans une sorte de joute rhétorique. Vous me dites que si vous ne croyez pas, c'est parce que vous êtes trop rationnel. Je vais vous démontrer que c'est faux. Imaginez que vous soyez parfaitement rationnel. Reprenez cet argument de calcul de probabilité. La raison vous commanderait de faire comme si vous croyez. Reconnaissez maintenant que si vous ne croyez pas, ce n'est pas par excès de raison, mais par excès de passion. Il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas et qui vous empêche de vous ouvrir à la possibilité de croire. Et ensuite, il dit, si vous voulez vous mettre dans la bonne disposition d'esprit, commencez par faire les mêmes gestes et les mêmes habitudes que si vous croyez. Abêtissez-vous, c'est le mot qu'il emploie. Allez à l'église, suivez les préceptes des autres et voyez ce qui se passe en vous. Et donc, cette idée, agir sur la machine, c'est-à-dire nos habitudes et ce qui réflexe, pour transformer notre pensée, ce que nous pensons, elle est au cœur de ce texte du pari. Alors maintenant, on y arrive à... Ah oui, si on a le temps en bonus, vous montrerai un petit film sur la pascaline. Quelle résonance écologiste à la pensée pascalienne, on arrive maintenant à cette partie-là. En premier, merci pour la mélodie triomphante qui montre qu'on arrive bien au moment clé, plein de suspense et tout ça. Alors, en premier, de façon incontestable, et c'est une des choses sur lesquelles il insiste, là où un Descartes, par exemple, recommande de couper les difficultés en petits morceaux, dit d'isoler, d'analyser, et explicitement il le dit dans son discours de la méthode comme l'un des éléments majeurs, Pascal, lui, insiste sur les liens, sur la façon qu'il y a de voir embrasser les choses. Impossible de comprendre l'homme si on le détache du reste. Les parties du monde ont tout un... Voilà, donc, je vais lire des extraits de Pascal et disons que ça sera des exemples un peu emblématiques d'idées qu'on retrouve ici et là dans ces textes. Les parties du monde ont tout un tel rapport et un tel enchaînement l'une avec l'autre que je crois impossible de connaître l'une sans l'autre et sans le tout. L'homme, par exemple, a rapport à tout ce qu'il connaît. Il a besoin de lieux pour le contenir, de temps pour durer, de mouvements pour vivre, d'éléments pour le composer, de chaleur et d'aliments pour se nourrir, d'air pour respirer. Il voit la lumière, il sent les corps, enfin tout tombe sous son alliance. Il faut donc, pour connaître l'homme, savoir d'où vient qu'il a besoin d'air pour subsister, pour connaître l'air, savoir par où il a ce rapport à la vie de l'homme, etc. Un peu plus loin, toute chose étant causée et causante, aidée et aidante, médiatement et immédiatement, immédiatement on le dit encore, mais immédiatement on le dit plus trop, mais enfin on voit justement par opposition à immédiatement ce que ça veut dire, et tout s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Le moindre mouvement importe à toute la nature, la mer entière change pour une pierre. Même si, évidemment, il ne prononce pas le mot d'écosystème, et on était très loin de ce concept-là dans les analyses biologiques, on voit bien qu'il a en tête que pour comprendre les choses, pour nous comprendre, il faut nous voir dans le contexte, en relation avec les éléments, avec ce qu'on mange, avec ce sur quoi on vit, etc. Et l'homme séparé de son environnement, comme on le dirait, n'a pas de sens. Et là, c'est une opposition claire avec Descartes insiste sur le fait d'analyser, décortiquer, là où Pascal, aussi en réaction à Descartes, dit « il faut embrasser le tout ». Deuxième, la grandeur humaine. À la fois, alors, il parle de l'homme, Dieu, la religion, etc., etc. Mais en particulier, l'humain est dans la nature, l'accepte, il y a une notion d'humilité, et sa grandeur est dans le fait qu'il arrive à connaître la nature. nuance considérable avec la phrase souvent attribuée à, enfin, la pensée de Descartes est telle qu'on souvent on l'a caricaturée, l'homme dominant la nature, l'écrasant. Ici, c'est l'homme dans la nature et l'homme fragile pour Pascal. Mais là où l'homme a sa grandeur, c'est dans le fait qu'il connaît la nature, pas qu'il la domine, qu'il l'embrasse. L'homme n'est qu'un roseau, très célèbre, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. L'homme fragile. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, puisqu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. On peut relier cette citation avec une citation d'un penseur écologiste emblématique, Élisée Reclus, emblématique à bien des égards et géographe du lien entre les humains et les territoires, mais aussi précurseur du féminisme, du végétarisme, du lien avec l'animal, de l'anarchie, etc. Et dans une préface d'un de ses ouvrages, Élisée Reclus nous dit « L'homme est la nature prenant conscience d'elle-même ». Et ici, alors ça va... vous me direz, il y a une nuance, mais il y a quand même, quand vous regardez les deux citations, l'une l'autre, il y a une incontestable analogie. L'humain est un animal après tout, et Pascal nous le décrit comme intelligent, avec des capacités et tout ça, mais quand même, mu par ses passions. Voici une de mes citations préférées de Pascal. « Nier, croire et douter bien sont à l'homme ce que le courir est au cheval. » Dans la même phrase, disant que les humains sont des animaux comme les autres, mus par leurs instincts, leurs passions, mais aussi reconnaissant que les instincts vont être différents d'une espèce à l'autre. Et pour lui, alors d'abord, nier, croire et douter bien, évidemment, pour, quand pour un intellectuel, ça sonne extrêmement bien. Et on retrouve dans cette phrase l'élégance de la formule qui est aussi une des caractéristiques de Pascal. Notre formule... où il insiste sur le fait que les hommes ne sont pas naturellement doués de raison, les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. Pascal aime beaucoup, comme ça, être toujours en équilibriste, à trouver des raisonnements qui semblent complètement tirés par les cheveux et à les mettre de façon élégante. Là encore, sur la première, quand il compare l'homme au cheval, tout en les séparant mais en les comparant, la nuance est considérable avec Descartes. Descartes insistant sur le fait que l'humain a la parole, que même les moins intelligents, entre guillemets, des humains sont supérieurs aux animaux qui, eux, n'ont pas la parole, et ainsi de suite. À la différence de Montaigne, qui, lui, déjà considérait que, en considérant des cas d'humains avec des pathologies mentales et autres, qu'il y avait plus, pour Montaigne, il pouvait y avoir plus entre un humain et un humain qu'entre de différence entre un humain et un humain qu'entre un humain et un animal, par certains côtés. Il y a certains endroits de Montaigne où vous lisez, vous avez l'impression de voir un morceau d'écrivain antispéciste contemporain. Dans la dernière citation, vous trouvez dans Pascal le goût pour les paradoxes. À la fin de chaque vérité, il faut ajouter qu'on se souvient de la vérité opposée, dit Pascal quelque part. Vous voyez, quelqu'un qui écrit un truc comme ça, la vérité opposée, comme ça, sans frémir, voyez bien le genre de problème qu'il posait aux philosophes de la raison, qui, eux, dans leur sujet, c'était de distinguer le vrai du faux, le fou du raisonnable, etc., etc. Et là, Pascal vous dit, un truc peut être vrai et son contraire aussi. By the way, quand vous êtes en politique, vous comprenez très bien ce que peut vouloir dire Pascal dans ce genre de choses. Alors, petite citation sur les paradoxes. Citation de Serge Moscovici. Encore un des penseurs extrêmement reconnus de l'écologie, les libéraux s'attachent aux erreurs, les à gauche aux contradictions, les écologistes aux paradoxes. Hein, les libéraux, c'est genre le monde est un grand tableau Excel dans lequel il faut corriger les coefficients et tout ira bien après. Pour la gauche, c'est les contradictions. Hein, au moment où il y a la lutte des classes qui est un moteur de l'histoire et qui va proposer du mouvement et faire le sens de l'histoire, etc. Et les écologistes, c'est les paradoxes. Par exemple, l'effet rebond. Le fait que pour vouloir tel truc, il faut vouloir quelque chose d'autre, le fait qu'il faut concevoir l'ensemble de ses conséquences, etc., etc. Donc le simple fait, on peut argumenter que le simple goût pour les paradoxes qui est caractéristique de Pascal dans cette époque-là est aussi quelque chose qui doit le rendre sympathique à la pensée écologiste. Au fait, qu'est-ce qu'il pense Pascal de la politique ? Voici aussi une chouette citation. On ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants. C'est des gens honnêtes comme les autres, riant avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophe et la moins sérieuse de leur vie. La plus sérieuse étant de vivre simplement et tranquillement. S'ils ont écrit de politique, c'était comme pour régler un hôpital de fous, hein. Diriger un asile d'aliénés, c'est ça qu'il veut dire. Tenter de vouloir faire de la politique, ça s'apparente à ça pour Pascal. Alors à la fois, il se moque des politiques, en même temps, on sait, on a vu qu'il est très habile parfois pour utiliser les rouages politiques. Et comme il dit aussi dans la suite de son texte, s'ils ont fait semblant, Platon et Aristote, d'en parler comme d'une grande chose, c'est qu'ils savaient que les fous à qui ils parlent pensent être rois et empereurs. Ils entrent dans leurs principes pour modérer leur folie au moins qu'il se peut. Vous voyez ici aussi, dans Pascal, un idéal politique qui s'en met après tout la sagesse, le vrai but de l'humanité, ça doit être de vivre simplement avec ses amis. Vous avez là, philosophe décroissant. Voici un autre passage qui montre un Pascal fin connaisseur de la politique, de la chose politique. La coutume de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers, de toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur, hein, la machine, c'est-à-dire nous, on voit arriver toute l'escorte et tout, et spontanément on est effrayé parce qu'il y a toute cette garde, cette armée, etc., font que leur visage, celui des rois, quand il est quelquefois seul et sans ses accompagnements, imprime dans leur sujet le respect et la terreur parce qu'on ne sépare point dans la pensée leur personne avec leur suite qu'on y voit d'ordinaire jointe. Et le monde qui ne sait pas que cet effet vient de cette coutume croit qu'il vient d'une force naturelle. Et de là viennent ces mots, le caractère de la divinité est empreint sur son visage, etc. Donc cette idée que l'image subliminale que vont donner les princes dans leur apparat et tout ça, va ensuite s'imprimer de telle sorte que vous allez par réflexe l'associer quand vous les voyez sans ça. Du nudge, de la façon de manipuler, le genre de choses qui vont faire la joie de tous les sociologues de la manipulation et des biais cognitifs au XXe siècle. Et là, il analyse à quel point ça peut être utilisé comme un instrument de pouvoir. Pascal a rédigé 3 discours sur la condition des grands. Il a donné devant des étudiants dont certains allaient devenir plus tard des politiques, un peu comme vous feriez aujourd'hui un exposé, un discours à Sciences Po ou à l'ENA pour dire voici mes conseils pour bien gérer, etc. Dans le premier discours, il explique vous allez avoir des hautes positions et tout ça. Dites-vous bien que c'est surtout pas lié à votre mérite. Et les gens qui sont rois, c'est parce qu'il y a eu telle et telle aventure, par manipulation, il y a eu un mariage arrangé entre leur famille, etc. Et puis il y a eu tel truc qui était complètement du hasard. Et pourtant, il faut respecter ce truc qui est complètement contingent et sans raison. Il dit, imaginez, vous êtes naufragé, vous arrivez sur une île qui est habitée. Il se trouve que les gens là sur cette île ont perdu leur roi qui a disparu et vous lui ressemblez trait pour trait. Ils vous prennent pour leur roi alors que vous n'y connaissez rien et ils vous veulent absolument comme roi. Eh bien, jouez la comédie. Faites comme si vous étiez vraiment leur roi. Mais gardez bien en tête que vous n'avez aucun mérite à ça. Et il dit, dans la vraie vie, si vous êtes roi, c'est pareil. Considérez que vous n'avez aucun mérite. Si vous êtes arrivé là, c'est pure coïncidence. Mais faites comme si. Sachez bien que les marques de respect qu'on vous témoigne ne sont pas à vous, mais à la fonction que vous incarnez. Et tâchez de trouver du plaisir à exercer ce pouvoir et à rendre la justice. Ça, c'est la conception de Pascal de la politique. Vous voyez aussi, Laurent Thirouin, le spécialiste de Pascal, m'expliquait ça, si on essayait de classer Pascal politiquement, ça serait un conservateur autocritique. Genre de gars qui, à la fois, est pour le maintien de l'ordre établi, mais passe son temps à expliquer qu'il repose sur du vent. Et qui, normalement, doit se faire détester de tout le monde, aussi bien les conservateurs que les progressistes. Avec Pascal, pourtant, tout le monde l'aime. Alors maintenant, on sait que politique, ce n'est pas seulement une vision et une doctrine, c'est aussi parfois des images ou des tournures. En voici. Et comme Pascal a de très belles images, parfois on peut les récupérer et les relire à notre sauce. En voici une qui est parfaite. Un homme dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n'ayant plus qu'une heure pour l'apprendre, cette heure suffisant s'il sait qu'il est donné pour le faire révoquer, il est contre nature qu'il emploie cette heure-là, non à s'informer si l'arrêt est donné, mais à jouer au piqué. Vous avez une heure pour vous sauver, peut-être par intrigue, et au lieu de vous occuper à vous sauver, vous jouez, vous vous distrayez. Là, j'y vois l'une des meilleures métaphores qui ait jamais été écrite sur l'humanité face au réchauffement climatique ou face à la crise écologique. On sait qu'on peut être condamné, on sait que si on s'y met, on peut se sauver, et on passe son temps à jouer. Ça veut dire jouer, ça peut être se latter sur les réseaux sociaux, ça peut être jouer au sens tragique du terme à la guerre, ça peut être jouer à construire des empires économiques, etc. Et c'est contre nature. Alors évidemment, Pascal n'avait pas du tout l'écologie en tête quand il a écrit ça. Mais il insistait sur un trait de nature humaine déjà bien présent et qu'il avait pu observer et contre lequel on sait qu'on se heurte tant et plus. Ici j'ai juste mis une des tournures rhétoriques qui faisait le succès des provinciales. Il parle d'un moment où telle tendance des moines ont voté pour tel sujet et alors qu'ils n'avaient aucune bonne raison, il a dit était plus à propos et plus facile de censurer que de repartir parce qu'il aurait bien plus aisé de trouver des moines que des raisons. C'est plus facile de trouver des gens qui vont venir voter pour un truc sans comprendre pourquoi, que de trouver les raisons pour lesquelles il va s'agir de voter. Quiconque a siégé au Parlement, par exemple, voit très bien des exemples que ça lui rappelle. Le cœur, maintenant. Et là, on arrive à un des sujets majeurs de toutes ces rencontres. On sait bien, et c'est très clair, parce que ça a déjà été exposé tant et plus, que c'est pas juste avec l'exposé des raisons et des motifs qu'on peut arriver à une action écologique pour la société d'ampleur. On le sait parce que tous les arguments rationnels sont déjà là, sont sur la table, tous les rapports des experts les plus respectés des académies des sciences. Et notre problème, comment convaincre les gens dans leur cœur ? Grande leçon que j'ai pu tirer durement dans ma vie politique, quand il s'agit de défendre un sujet qui chamboule la société, à la fin des fins, même si les arguments sont là, les gens vont voter avec leur cœur, pas avec leur esprit. Et pendant longtemps, j'ai pu croire que c'était un défaut d'information qu'il y avait pour le politique. Dans le chaudron, on voyait bien, c'est pas l'information le problème. C'est le courage de chambouler, d'être prêt à vous faire engueuler, par exemple sur la loi conditions animales que j'avais défendue, qui reste à ce jour la plus ambitieuse jamais proposée à l'Assemblée, qui s'est évidemment fait dégager en hémicycle. Même l'article 1 n'a pas été voté, ça a été un carnage. Mais en tout cas, tout ce que je voyais dans les débats, les discussions et tout ce qui allait avec, sur ces sujets-là, même si les gens ont toute l'information, à la fin des fins, ils vont dire oh, « tu as raison, mais pas ici, pas maintenant, pas comme ça », ils reculeront devant l'obstacle par peur d'être engueulés par son patron, son chef de groupe, son parti, ses électeurs, son entreprise à côté ou qui sait quoi. Et pour avoir le courage d'avancer là-dedans, c'est vraiment avec le cœur que ça se joue. Et donc toute la problématique de Pascal, le cœur pour comprendre, quand il s'agit de mettre en œuvre des changements de société, en particulier dans les questions écologistes, elle est d'actualité. Et la machine, bien sûr. Voici un ouvrage du spécialiste de sciences cognitives Antonio Damasio, dans les années 90, « L'erreur de Descartes », un ouvrage célèbre dans lequel il vous montre, études cognitives à l'appui, et ainsi de suite, que pour arriver à faire comprendre quelque chose aux gens, il faut passer par le registre émotif. Ça, quand vous faites des stages de communication de scientifiques pour le grand public, c'est le premier truc qu'on vous explique. Ne cherchez pas à expliquer avec la raison ce que vous faites aux gens. Commencez par établir une relation d'ouverture avec une émotion. Même si cette émotion n'est pas celle, n'est pas en rapport direct avec le sujet, votre sujet. S'il n'y a pas cette connivence émotionnelle qui s'établit, ça tombera à plat. La question comment convaincre, comment discuter, c'est des choses que dans les grandes crises Covid, dans les grands déboires qu'on a vus après, ça s'est posé de façon extrêmement forte. Et s'il y a une leçon qui a été tirée, qu'on a bien vu de société, c'est que chaque fois que l'Académie des sciences, par exemple, publiait un communiqué avec tout le poids de son autorité, ça n'avait juste aucun effet sur les fortes en présence. Absolument rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi quand vous vous tentez de convaincre quelqu'un qui n'est pas avec vous. La raison, quasiment jamais n'y arrive. Trouver le moyen, des fois, c'est d'établir une relation directe. Des fois, c'est par l'exemple. des fois c'est par une référence culturelle commune, des fois c'est par un, en commençant par faire miroiter une émotion. Et là, c'est le travail de, ça s'appelait l'erreur Descartes, ça aurait pu être la clairvoyance de Pascal Damasio. Quand Descartes, quand Pascal vous dit on ne comprend bien qu'avec le cœur, et où il s'inscrit en réaction à Descartes, il est dans le mille, et en particulier sur cette conférence dans laquelle on s'inscrit sur la question quels sont les récits et les façons de parler aux émotions. Je vais terminer avec ce qu'on va appeler la règle des parties. Alors, la règle des parties, pour Pascal, a un sens précis. C'est comme ça qu'il fonde son calcul des probabilités avec un jeu. Alors là encore, c'est un texte magnifique à lire. Les lettres qu'il adresse au mathématicien Pierre Fermat, et dans laquelle il essaye de résoudre un problème qui lui a été posé par un de ses amis qui est un joueur, le Chevalier de Méret, un joueur professionnel qui sait par cœur combien de fois il faut lancer un dé pour avoir plus d'une chance sur deux de faire 6, combien de fois il faut lancer deux dés pour avoir plus d'une chance sur deux de faire un double 6, etc., etc. Mais qui le sait d'expérience et qui dit que c'est trop subtil pour être mis en mathématiques. Et Pascal dit non, mais je vais le mettre en mathématiques. À l'époque, on disait la géométrie du hasard ou la géométrie de la chance. Aujourd'hui, on dit théorie des probabilités. Pascal se lance là-dedans et il commence avec un jeu. Et c'est assez remarquable que toute cette théorie mathématique part de l'analyse d'un jeu de hasard et d'argent. Et le jeu est le suivant. Vous êtes deux joueurs, vous jouez un jeu de dés par exemple, et il y a un pot commun, vous mettez des pistoles, dans l'exemple de Pascal, vous mettez chacun 32 pistoles au pot, et puis vous jouez une partie en trois manches gagnantes, c'est un pur jeu de dés. Et la partie s'interrompt au bout de la troisième manche pour une raison inconnue. C'est le couvre-feu ou qui sait quoi. Il y en a un qui mène 2-1. Au lieu de juste reprendre vos billes l'un l'autre, vous décidez de partager ça de façon équitable. Celui qui a deux manches a plus de chances de gagner que celui qui n'en a qu'une. Il est juste qu'il reçoive plus que la moitié du pot. Et la règle que se demande Pascal, c'est quoi la juste façon de faire de partager ça. Et il fait un calcul en introduisant un objet mathématique qu'on appellera bien plus tard une martingale, qui a été à la base de tout le calcul stochastique et le calcul financier d'ailleurs, y compris dans les grandes années des quantes, la folie avant le krach de 2008 et tout ça. Et c'est normal parce qu'au début, c'était une règle de jeu et la question demandée, c'était c'est quoi le juste retour et la façon de partager. Donc quand il y a la règle des parties, c'est ça, vous avez la façon de partager le pot. Maintenant, de nos jours, parties ont un autre sens, et en particulier on pense aux partis politiques qui n'existaient pas dans leur forme telle qu'on les connaît maintenant à l'époque de Pascal. Mais on peut, en développant l'analogie qui est faite dans le film de Romer que j'évoquais, transposer le raisonnement sur la religion de Pascal à l'engagement dans les partis. Et donc ce raisonnement par l'absurde que je voulais évoquer, je vais vous le faire tel quel, en disant voilà, où vous essayez, où vous tentez, de convaincre quelqu'un qui n'est pas engagé, qui ne veut pas avoir sa carte à un parti, qui dit que la politique, ce n'est pas pour lui, tout ça, d'adhérer. Et donc, si vous suiviez le raisonnement pascalien, c'est comme ça que vous feriez. Vous direz, écoute, tu me dis que tu es trop rationnel pour t'engager dans les partis, qu'en plus, dans les partis écolo, on est trop bizarre, etc., etc. Tu me dis que tu es trop raisonnable pour faire de la politique. Réfléchis un peu. Tu étais vraiment raisonnable, mets en balance et fais les calculs de probabilité. Au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Tu vas perdre du temps. Dans la vie, on perd tous du temps à plein de choses. Tu vas peut-être te faire attaquer, alors ? Peut-être tu vas perdre un petit peu de points de vie dans telle ou telle manigance, etc. Mais compare avec le gain potentiel. Si tu réussis avec tes copains, vous allez sauver le monde. Parce qu'il n'y aura pas de transition écologique sans action politique, gouvernementale, sans jeu des partis. Le gain est infini. Fais le calcul des probabilités, même si tu n'avais qu'une chance sur 1000 de gagner. Tu aurais intérêt, si c'était la raison qui te commandait, à t'engager en politique et à tenter de faire gagner tes idées. Donc maintenant, réfléchis un peu. Si tu étais rationnel, tu t'engagerais. Tu ne veux pas t'engager. Pas par excès de rationalité, c'est par passion. Réfléchis. Est-ce que c'est que tu as peur du ridicule ? Est-ce que c'est que tu veux te conformer à la norme sociale ? Qu'est-ce que c'est ? Interroge-toi et demande-toi ce qui t'empêche, les passions qui t'empêchent de t'engager. Et si tu veux t'ouvrir, ben, abétis-toi. Pas d'aller à la messe, là. s'agit d'aller à un meeting, va distribuer des prospectus, va faire de la retape sur les marchés, va discuter, etc. Et regarde ce qui se passe en toi. Est-ce que l'habitude va te donner envie de continuer ou pas ? Ça serait ça, l'exact raisonnement, le parallèle dans la vie politique de ce que Pascal applique à la religion. Et alors, on va l'appeler la règle des partis. J'aime bien ça, parce que ça fait un jeu de mots sur parti. Évidemment, un jeu de mots a posteriori, puisque parti, comme je vous le disais, n'existait pas dans le sens moderne à l'époque de Pascal. Mais j'ai la faiblesse de penser que ça aurait amusé Pascal. Gardez ça en tête à l'occasion. Peut-être ça peut vous aider le jour où il faudra convaincre un de vos amis. Pascal nous dit... Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On vous jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. N'empêche, ce qui est important, ce n'est pas le dernier acte, c'est la comédie. Quand on regarde Pascal, on voit aussi qu'on a là quelqu'un qui était un intellectuel le plus brillant qui soit, mais qui était complètement en prise avec son monde, avec sa société, se lançant dans les polémiques, se lançant dans des aventures commerciales, prenant des risques. Quand on lit ses lettres, on voit qu'il avait un plaisir extraordinaire à échanger avec les uns et avec les autres, grand plaisir à observer le monde et ainsi de suite. Surtout ne se voyant pas au-dessus des autres, mais en grande interaction avec le monde. Et le faisant avec joie, même si il avait un goût pour la polémique et le fait d'être au cœur des attaques. Je crois que c'est quelque chose qui en soi peut être aussi considéré pour un modèle et dans une écologie politique dont on sait que c'est à coup sûr la famille politique dans laquelle le rôle des intellectuels et le rôle des scientifiques est le plus important quand on regarde le corpus varié, considérable, etc., etc. Mais où c'est devenu quelque chose d'extrêmement compliqué, difficile de faire rentrer les intellectuels dans l'arène politique. Et on le comprend. Pascal, aux intellectuels, on peut espérer, peut aussi donner de la force, du courage, de l'inspiration à tout ce monde pour descendre dans l'arène. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Merci à Jean Dombre, Laurent Thirouin, Nathalie Vidal, Alain Lipiès pour avoir donné quelques clés dans les préparations de ces exposés. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a 5 minutes de questions et après, je resterai un peu pour ceux, celles qui veulent encore poser des questions. Mais on doit libérer la salle vers 20h.
Alors, moi, je vais commencer par une question simple. C'est pourquoi Pascal, en fait ? Pourquoi ce philosophe vous a plu pour aborder la question de l'écologie ? Alors que j'imagine, enfin, comme vous l'avez dit, il n'était pas spécialiste de l'écologie. Donc.
Alors. On peut répondre sur plusieurs tons. D'abord, on aime bien les paradoxes et c'est bien de. Il aurait été évidemment naturel et simple si on parle de philosophe, je sais pas moi, de faire un exposé dans lequel on va parler d'un André Gortz ou on va parler d'un Ivan Illich ou qui c'est qui sont très estampillés écologie avec une réflexion qui est extrêmement élaborée là-dessus. Parler de Pascal est bien plus original et plus paradoxal et c'est bien de sortir de ce qui est attendu aussi. Et puis aussi, comme je disons, Pascal, il fait partie des quelques très grands monstres sacrés de l'écologie auxquels c'est bien de pouvoir se rapporter en positif, en négatif, dans le référentiel commun. Vous allez dans la rue, peut-être vous abordez un quidam. Hélas, pas beaucoup de chance qu'il ait connaissance de Ivan Illich, mais à coup sûr, il aura entendu parler de Pascal. Et ça fait une référence commune aussi. Pascal est quelqu'un qui écrit très bien, ce qui vous fait des citations, des formules et ainsi de suite. Quand on est dans le débat politique, parfois la bonne formule compte beaucoup mieux que le bon raisonnement.
Je me lance, je vais faire de la polémique. Pascal, c'est un mec, il est né le cul dans la soie. Il a eu une bonne formation et puis il s'est jamais occupé du partage de la richesse, de la lutte des classes. Bon, je trouve qu'il n'est pas très écolo pour l'instant.
C'est un conservateur. Et c'est bien pour ça que j'ai commencé en disant c'est pas un penseur écologiste. En revanche, c'est quelqu'un dans lequel les écologistes peuvent retrouver des choses. Et même si je voulais faire l'argument d'autorité, ce qui n'est jamais très bien, voir qu'il est admiré par le collègue Alain Lipietz, qui lui a bossé dans la lutte des classes et dans les questions écolo, ça montre que ma position n'est pas complètement perverse.
Est-ce que choisir justement Pascal, qui est un conservateur, qui n'est pas écologiste, c'est aussi, ça ne serait pas une façon de faire passer un message qu'il faut faire de l'écologie avec tout le monde ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous, pour certains, utilisez Pascal comme référence sera plus porteur qu'utiliser Marx. Et c'est bien d'avoir des références ici et là. Il y a quelque temps, j'entendais un député vert allemand, Bütikofer, insister sur ce sujet de référence permettant d'avoir des touches ou dans des camps différents, au moins de 100 ans de certaines actions. Et il nous parlait d'un article écrit il y a quelques années par je ne sais plus quel personnage public américain qui était « Would Jesus drive an SUV ?» Est-ce que Jésus aurait conduit un SUV, les énormes pick-up et qui sait quoi. Utiliser Jésus, pour le coup, peut être vu comme un modèle révolutionnaire, anarchiste, etc., etc., est une référence qui pourra vous attirer de la sympathie auprès de certaines personnes qui auront là aussi plus de mal avec d'autres références. Et donc, effectivement, comme tu dis, ça peut être un allié stratégique dans des endroits où Pascal, disons, est plus en odeur de sainteté que d'autres qui seront plus faciles, plus estampillés, écolo. Tout est manipulation, mon ami.
Merci beaucoup, c'était passionnant. Vous faisiez l'analogie entre ce que Pascal disait, de ce que sa pascaline allait apporter, et notamment de ce que ça demandait aux utilisateurs, enfin, ce que ça apportait en termes de confort aux utilisateurs de ne pas avoir à maîtriser un certain nombre d'outils et de laisser parfois un peu la réflexion de côté. Est-ce que vous pourriez filer la métaphore un peu plus loin par rapport à ce que l'intelligence artificielle nous apporte aujourd'hui comme potentiels horizons? Avantages, mais aussi écueils dans lesquels on pourrait tomber. Ou ce que Pascal en aurait dit, si Wood Pascal, ce qu'il aurait utilisé ChatGPT, par exemple.
Pascal aurait à coup sûr cherché à perfectionner la formule et à la commercialiser. Je pense qu'il était et il aurait sans doute utilisé en tant que peut-être il l'aurait utilisé en tant que sparring partner, mais il aurait mis un point d'honneur à avoir le dernier mot. C'est clair dans le texte et tout que Pascal comprend bien. Le débat classique sur le rapport qu'on a avec l'outil et quand est-ce que l'outil nous sert et quand est-ce qu'on devient asservi par l'outil, etc. C'est un débat qui remonte à très loin, hein, puisqu'on le retrouve déjà avec Socrate argumentant contre l'usage généralisé de l'écriture en disant que ça nous rendra moins indépendants de nos façons de réfléchir, que ça fera plein de malentendus, que ça nous fera perdre en mémoire. Bref, qu'on deviendra dépendant de cette technique, l'écriture, au lieu de se développer nous-mêmes. Et donc, tous ces débats qui tisse un fil avec la convivialité d'Ivan Illich ou les débats d'aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, Pascal, on pouvait les avoir déjà à l'époque de la pascaline. Et aujourd'hui, on a le même débat, bien sûr, avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va nous rendre plus crétins en ce que ça va nous dispenser de réfléchir et de faire les points à notre place ? Ou est-ce que ça nous permettra de nous développer parce que quand on regardera ses réponses, on se dira « Tiens, je n'avais pas pensé à ça, ça va enrichir mon argumentaire, je vais retravailler plus cet aspect, ou là, il y a une faiblesse, il faut que je retravaille mon propre discours, etc. etc. » Ça dépendra de la façon dont on utilise, et ainsi de suite. Pascal, lui, utilise vraiment sans vergogne le même argument qu'un Bill Gates ou autre, « Laissez la machine faire le travail à votre place, aie confiance, et puis ça va tout résoudre. »
J'avais une autre question. Vous avez juste évoqué la place de ses sœurs à Pascal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle, sur les lettres ? Enfin, est-ce que ces lettres-là n'ont pas été publiées, les réponses de ses sœurs ? Enfin, comment elles ont influencé sa pensée, si ça a été travaillé ?
Alors, j'ai pas assez potassé les uns et les autres, mais la correspondance entre... Il y a une correspondance abondante, commentée, étudiée, et des ouvrages qui ont été écrits sur les sœurs de Pascal. J'ai même entendu une fois... Un éminent théologien considérait que, en matière de théologie, Jacqueline était plus brillante que Blaise et que c'était elle, du point de vue théologique, c'était elle le génie de la famille et qu'il y avait une connivence et un, un mélange d'émulation et parfois de mise en garde. Par exemple, les sœurs, à un moment, elles ne comprennent pas quand Pascal se lance dans les mondanités. En tout cas, Jacqueline a l'impression qu'il est en train de se perdre, etc. etc. Marguerite est plus son ouverture vers le monde extérieur. Par exemple, c'est le mari de Marguerite qui s'occupe de faire les expériences à Clermont-Ferrand de Pascal au sommet du Puy-de-Dôme. Donc, il a une très grande confiance dans ses deux sœurs, aussi bien sur les questions spirituelles, intellectuelles que scientifiques. Et à la mort de Blaise, c'est Marguerite qui va récupérer les brouillons, les éditer, faire la première biographie, on pourrait dire une hagiographie de Blaise Pascal, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une relation presque fusionnelle entre les trois. Et je sais qu'il y a eu des ouvrages, des études, y compris un ouvrage récent qui est paru sur Jacqueline, mais les deux sœurs sont passionnantes, chacune dans leur genre. Et chers amis, merci encore et à bientôt.